Fait que juste là, dans la caméra, qui nous écoute, fait qu'on les salue. Fait que je continue l'étude sur 1 Pierre. Puis peut-être qu'il y en a qui trouvent ça un petit peu long, là, parce que ça fait quoi, 5 mois, peut-être que j'avais commencé ça. Et puis c'est vrai, ça parle souvent de souffrance. Puis ça va encore parler de souffrance, mais peut-être qu'on a besoin d'entendre ça, je sais pas. Mais c'est pas agréable et facile. Mais je pense que le Seigneur a des choses à nous dire. Fait que prions pour qu'on soit construit ce matin, édifié. OK? On prie. Seigneur grand Dieu, on se présente devant toi et puis on est bien impuissant. Mais on veut simplement présenter ce que la Bible a à nous dire. Et donne-moi, Seigneur, d'être fidèle, simplement fidèle. Et donne à chacun un cœur ouvert, bien disposé pour recevoir une parole qui vienne de toi, qui nous encourage, qui nous fortifie. On te le demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. OK. Ce que j'aimerais, c'est qu'on... Tu sais, c'était le contexte de la lettre de Pierre, c'était des chrétiens qui souffraient beaucoup. C'est peut-être pas facile à voir à cause des spots, là. On pourrait les baisser un petit peu, mais c'est important pour la caméra, là. Mais attends, c'est pas inventé, là. On sait que les premiers chrétiens souffraient beaucoup. Et puis, c'est à ces gens-là que Pierre écrit pour les encourager malgré leurs souffrances. Et puis, on va lire le texte, puis ensuite, on va essayer de le prendre bout par bout. Mais je pense pas même qu'on aura le temps de tout couvrir ce texte-là. Alors, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. 1 Pierre 3. C'est 1 Pierre 3, 18. Puis là, c'était écrit 1 Pierre 2 avant? OK. On y va. Christ aussi a souffert. Et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. La dernière partie que j'ai lue, c'était peut-être les versets les plus compliqués de la Bible, avec le plus d'interprétations possible, mais je pense pas qu'on ait le temps d'en parler. Ce que j'aimerais qu'on parle, c'est surtout le début ici. Et puis ça dit « Christ aussi a souffert ». Si je dis « Christ aussi », ça veut dire que je le compare à quelque chose. Et là, on va aller voir un petit peu, c'était quoi le contexte dans lequel on dit « Christ aussi ». Donc, si on remonte un petit peu en haut, verset 15, puis là on va voir à quoi c'était comparé. Ça dit « Soyez toujours prêts ». À défendre l'espérance qui est en vous. Fait que là, on comprend que les premiers chrétiens à qui Pierre écrivait, ils devaient défendre. Ils s'étaient contestés. À défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, en voulant dire, dis la vérité comme que c'est, fais-le avec douceur et respect. Mais sois prêt, puis dis-les. Même si, afin que là même où il vous calomnie, OK, c'est là la souffrance un petit peu, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite, fait que là, ils souffraient de ça aussi, en Christ, soient couverts de honte. Et là, ça continue, c'est le verset précédent, à quoi il compare Christ? En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et c'est là qu'il compare et dit, Christ aussi a souffert. Fait que vous autres, vous souffrez, mais pensez-y, Christ aussi a souffert. Et ce, une fois pour toutes, pour les péchés, lui juste. Il a souffert. Trois fois il dit ça, souffert. Je les ai mis en rouge pour qu'on voit. Et face à toute cette souffrance-là, j'aimerais ça faire une petite parenthèse puis se poser la question. Dans quelle mesure qu'on peut prendre des moyens pour arrêter de souffrir? Moi, j'aime pas ça, souffrir. Personne n'aime ça, souffrir. Je peux-tu faire de quoi pour arrêter de souffrir? Est-ce que c'est correct pour un chrétien de se défendre quand il est persécuté? Puis jusqu'à où qu'il peut aller? Hein? La question se pose. Aux États-Unis, c'est une question qui est importante parce que là-bas, le port d'armes dissimulées est autorisé. Même si ça semble répandu dans la population, le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis dit que tu as le droit de garder et de porter une arme pour te défendre. Pas mal ça, là, tel quel. Et puis, souvent, quand je soulève les questions, j'ai fait au GBU avec les étudiants, puis on parlait de ça, puis là, on va tomber sur le cas extrême. « Ouais, ben là, Jocelyn, là, tu sais, pense-y, là, tu sais, ils viennent tuer ta femme, ils viennent violer ta fille devant toi, tes filles, Hein, tu qu'est-ce que tu vas faire? »« c'est vrai, hein? » C'est sûr que je resterai pas les bras croisés. Mais dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que Jésus ferait? Pas facile. C'est peut-être le pire des cas, là, qu'on prend, mais ça n'arrive pas souvent. Merci Seigneur. Mais, tu sais, comme l'argument, écoute, les premiers, là, quand tu dis d'aimer ton prochain, mais ton prochain, c'est ta femme. T'es pas capable de la défendre. Trouve-toi un gun. Il va comprendre. C'est arrivé, Jerry Falwell, là, ça c'est le fils. Et puis aux États-Unis, là, parmi les évangéliques, c'est comme une célébrité. Et puis là, c'est le junior, qui est le président de Liberty University, dans l'État de Virginie. Fait que le 4 décembre 2015, il y avait une rencontre de la chapelle. Mais la chapelle, là, c'est pas une petite chapelle, là, ils sont... Tu regardes ça, là, c'est un gros stade. Ça, c'est leur chapelle. Ils ont 110 000 étudiants inscrits. C'est la plus grosse université chrétienne, avec 15 000 étudiants en résidence, puis 95 000 étudiants en ligne. 7 000 membres du personnel, il y a bien du monde. Fait que là, ils leur parlent, et puis c'était... directement, là, deux jours après les attaques de San Bernardino, en Californie, le 2 décembre, où est-ce qu'il y avait eu 14 morts et puis 22 blessés graves. Et puis là, il parlait de cette situation-là. Et puis, dans son discours, il avait dit, « Je veux simplement saisir cette occasion pour vous encourager tous et chacun d'obtenir vos permis. » En parenthèse, c'était de port d'armes dissimulées. Nous offrons ici à l'université un cours gratuit et donnons-leur une leçon s'ils s'avisent à venir ici, en parlant des terroristes. Et puis là, on le voit à la télévision, tu sais, c'est filmé, le Washington Post l'a reporté, puis tout ça. Il dit, si tout le monde avait ce que j'ai ici dans ma poche arrière, il y en aurait bien moins de problèmes. Je ne sais pas si j'ai le droit de le montrer en public. Et là, ça riait tout partout dans les 15 000 personnes. Puis ça faisait sensation, mais là-bas, il encourageait les chrétiens à porter une arme pour défendre leur prochain, pour intervenir, puis tout ça. Fait que c'est un contexte là, qui fait réfléchir. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis, il y a toute une théologie pour appuyer cette position-là. Comme par exemple, je vous prends un verset là, qui est des fois utilisé, l'Éternel, dans le livre des Noms, dans la Torah, c'est le Pentateuque de Moïse, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et puis, l'argument qui est dit de ça, parce qu'il y a plusieurs versets qui parlent d'armes. Ça dit, Dieu a donné des armes à ses archanges, parce que même le Tout-Puissant sait que l'on ne combat pas le mal avec la tolérance et la compréhension. Fait que, les armes, si on des épées, il y aurait peut-être eu des revolvers s'il avait connu ça, mais si on des épées, c'est parce que c'est nécessaire, même pour des anges. C'est en Bible. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis là, il y a plein d'exemples. Tu sais, dans le livre d'Esther, les Juifs qui sont, tu sais, qui avaient été persécutés à Amant, tu sais, qui avaient fait une loi. Puis là, Esther et puis Mardochée avaient décrété un autre décret pour dire aux Juifs qu'ils pouvaient se rassembler pour se défendre contre leurs ennemis. Bon, tu vois, dans la Bible, ils peuvent se défendre. OK? Aimer ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, ben tu vas le défendre. Et puis Jésus qui avait dit que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Même Jésus l'a dit. Puis le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Oui, ça parle de vengeance, mais le magistrat aussi aux États-Unis, en tout cas, a donné le droit aux citoyens de porter leur arme pour se défendre. Fait que c'est le magistrat qui nous le dit, qui nous donne ce droit-là. Fait qu'il y a toute une théologie puis solide qui se tient, en tout cas, pose des questions des fois. Et puis, j'avais vu ce poster-là sur Facebook, maintenant. « I'm a Christian, but make no mistake. » Puis là, je l'ai traduit ici en français. « Je suis un chrétien, mais ne vous y trompez pas. Je vais défendre le faible. Je vais défendre la liberté. Je vais me sacrifier pour que d'autres puissent vivre dans la liberté. » C'est beau, hein? Je vais défendre ma famille jusqu'à la mort. J'aime la paix, mais je suis un ennemi farouche. Une faute d'orthographe, là. Je vis selon la parole de Dieu. Je vis avec honneur. Il n'a pas dit avec amour, il a dit avec honneur. Je suis né pour être un combattant. Tu sais, je combats le bon combat. Ben, je suis un combattant. Puis là, tu vois le gars, tu sais, le casque aiguisé, le pointu, puis coupant, puis il y a un arc. Il est à genoux, mais, tu sais, achale-le pas. Puis ça circule comme ça, là. Puis ça laisse perplexe. Puis je voyais, tu sais, des fois, tu tombes sur un site, puis là, le gars, il y a bien des photos, puis tu vois là que c'est ça qui le passionne, qu'il y a comme son message. Et puis il y avait aussi cette photo-là qui valorisait une certaine force pour passer le message. Hein, tu sais, le malaise, il commence à monter de plus en plus dans mon petit cœur. Puis, tu as beau avoir des beaux arguments, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus n'a jamais pratiqué ça. Puis Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de pratiquer ça. Les apôtres ont jamais enseigné ça, ont jamais pratiqué ça, ont jamais enseigné aux autres chrétiens de pratiquer ça. Et puis, on sait, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. L'épée, ce qu'elle va adresser, c'est la chair et le sang. Mais contre les puissances, les principautés dans les lieux célestes, une guerre spirituelle. Et puis, c'est pas cette façon-là que l'Évangile s'est répandu. Peut-être que des territoires ont été gagnés. Peut-être. Peut-être que l'Europe a été défendue. Il y a toutes sortes de justifications aussi données pour ça. Mais c'est pas comme ça que le message de Jésus s'est répandu. Au contraire, les chrétiens étaient persécutés. Puis c'est Dieu qui agissait d'une façon prodigieuse. Ici, on a la conversion de Paul. Hein? Ça dit qu'il était assoiffé de sang, qui allait puis qui sortait des chrétiens, qui est forcé à blasphémer puis qui les mettait en prison. Et puis là, il s'en allait à Damas, qui est loin d'Amas. Puis là, arrêté, qui tombe par terre par une lumière éblouissante. « Qui es-tu que je persécute? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il n'y a pas d'empereur, il n'y a pas de généraux qui ont converti autant de rebelles à plier le genou pour lui avec leur épée que Jésus a réussi en montrant par son amour comment il est mort pour eux. Ça, c'est comme ça que l'Évangile s'est répandu. Les chrétiens, au début, il n'y avait pas d'armée. Ils étaient faibles, ils étaient persécutés, ils s'en allaient de lieu en lieu. Mais la puissance du Saint-Esprit agissait pour toucher les cœurs et faire ce que l'épée n'aurait jamais pu faire. Puis ça, je trouve ça beau. Et je dirais que une religion qui a besoin de ça pour se répandre, ou du djihad pour se répandre, ou un Dieu qui est bien petit, qui doit dépendre de la violence puis de la guerre de ses croyants pour gagner. Non! C'est ce Dieu-là que je veux. Qui a la puissance de convertir les rebelles sans l'épée. Fait que c'est quoi la pensée de Dieu? Hein, ça dit, en effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté. Hein, la volonté, ça veut dire qu'il y a une pensée derrière. Si j'ai une volonté, c'est parce que là, j'ai quelque chose en tête. C'est quoi la pensée de Dieu? Et puis, j'aimerais ça présenter certains arguments. Je sais qu'il y a deux parties. Hein, on n'est pas là pour se chicaner. Surtout que l'autre partie, je sais qu'ils sont en faveur du port des armes. Pas là pour se chicaner, mais... Pour réfléchir, ce que je pense qui reflète davantage l'Évangile. Et là, ça dit, si telle est la volonté de Dieu. Mais c'est quoi cette volonté-là? Puis comment ça marche? Pourquoi que vaut mieux souffrir? Ou ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu? Dans 1 Pierre, on retrouve deux fois cette expression-là en rapport avec la souffrance. Alors, c'est quoi l'idée? C'est quoi sa pensée de Dieu? Qui remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Puis, d'autres versets dans Pierre, il y en a plusieurs. « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure en parlant de Jésus. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Il s'en remettait. « Je souffre, Seigneur, je te fais confiance. Moi, je m'en remets à toi. Tu vas t'occuper de moi. » Dans Matthieu, ça, j'avais trouvé ça bon. Alors, Jésus lui dit à Pierre, qui avait justement avec l'épée qu'il avait achetée en vendant son manteau. Là, il a poigné son swing sur un des soldats. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a manqué sa shot. Il a fait ça. Couper l'oreille. Remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et là, on voit un peu comme la pensée. Penses-tu que je ne puisse pas? Ça, c'est comme le principe que je trouvais qui me faisait réfléchir. Si je souffre, persécuté, c'est comme de me dire, le Seigneur me dit, penses-tu que je ne puisse pas? Penses-tu que je suis impuissant, que je pourrais pas te défendre? Que là, j'ai été surpris là par les terroristes qui sont rentrés chez toi, qui sont en train de tuer ta femme et violer tes filles, penses-tu que je pouvais pas? Jésus, c'est comme il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Écoute, allume un peu. Je ne suis pas un impotent. Je pourrais, mais j'ai mon idée en tête. Peux-tu me faire confiance? Si telle est la volonté de Dieu, tu as une volonté, toi, là-dedans. Même pas ça. Je la comprends pas. Mais tu me dis que tu as un plan. Puis que tu pourrais. Si tu voulais, tu pourrais faire de quoi? Puis on va voir quelques versets dans Matthieu. C'est tout ensemble. Dans le fond, là, on aurait pu en lister plusieurs, mais vous allez voir que vous n'êtes pas surpris par ça. C'est dans l'Évangile. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Alors, pensez-y, là. Ne pas résister aux méchants. Jésus aurait peut-être pu faire une exception. Il dit, quand justement ils viennent pour prendre ta femme puis tes filles? Là, tu as le droit de t'avoir ton revolver. Tire-y des jambes, pas dans la tête. Mais faites quoi? Non, il n'y a pas fait d'exception. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ah, peut-être c'est une parabole. Une hyperbole. Jésus était fort là-dedans. Il exagérait encore. C'est tout ça? Le contexte pointe pas vers ça. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Puis il semble pas faire d'exception. Mais il a son idée en tête. Penses-tu que je ne puisse pas? Si je voulais, je pourrais faire de quoi? Fais-moi confiance. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est vraiment méchant. Et puis regardez pourquoi. Afin, il y a une raison pour ça, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Là, tu dis, ouais, c'est vrai, hein, Dieu il fait ça. Il fait pleuvoir sur la récolte des injustes aussi. Il est bon envers eux autres. Lui, il faut que je sois comme lui, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il dit, je veux que tu sois différent. Le monde, il remarque quand les chrétiens ne sont pas différents du monde. Ouais, ben toi, tu fais bien pareil. Mais le monde remarque quand les chrétiens sont différents du monde. C'est ça qu'il veut, qu'on agisse comme notre Père céleste. Fait que donc, on revient à ce verset-là. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. C'est quoi cette pensée-là? Pourquoi qu'il voudrait qu'on souffre s'il nous aime? Je comprends pas. Est-ce que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu? J'aurais un exemple à vous proposer qui m'a beaucoup touché. Et puis, c'était l'histoire de Nate Saint. Ça vous dit quelque chose? Nate Saint, puis il y avait 5 amis ensemble. En 1956, on les voit ici, en janvier 1956, 5 missionnaires sont morts en tentant de partager l'Évangile avec les Waodani, la tribu Waodani en Équateur. Puis on voit ici Nate Saint, puis Jim Elliott. C'était des vraiment bons gars. Tu sais, il a été à l'université, il y en a un qui avait étudié en droit, juste un pilote de brousse. Vraiment du bon monde. Puis là, ce qu'il avait fait, il avait trouvé cette tribu-là sauvage, comme ça se peut pas. Puis, si j'avais bien compris, il envoyait comme des explorateurs pour du pétrole, tu sais, puis ils avaient tout tué. Il n'en voulait pas d'étrangers, non. Puis entre eux autres, ça se tuait comme c'était pas possible dans ces tribus-là. Vraiment des gens cruels. Et puis, eux autres, ce qu'il avait fait, lui, le gars, Nate Saint, avec son affaire, il laissait tomber une corde, puis là, il tournait en rond, puis là, il laissait descendre la nourriture, des outils, puis tout ça. Hey, les Indiens étaient contents, puis ils disaient, la belle volante est venue, elle nous a laissé des choses, puis ils faisaient des babayes, puis les Indiens leur faisaient des babayes. Puis là, petit à petit, ils ont apprivoisé. Et puis, une fois, ils se sont dit, on va descendre, on va aller les voir. Mais ils savaient qu'il y avait un risque. Et puis, ça, c'est Nate Saint qui avait dit à son garçon, son petit gars, finalement, j'étais un petit peu loin, là, mais mon garçon, on ne peut pas tirer sur les Wow Danny. Ils ne sont pas prêts pour aller au ciel, mais nous, nous le sommes. Fait que ça, c'est dans le film qui a été fait « At the end of the spear », à l'autre bout de la lance, où est-ce que le papa, Nate Saint, il avait dit à son gars Steve Saint, puis il explique un petit peu le contexte du danger de leur mission. Et puis, ils sont descendus, puis ça a bien été. Vraiment, et puis ça monte dans le film, il a donné un tour d'avion à la tribu, des indigènes, des Wow Danny. Puis là, ils étaient tout excités. Puis c'était vraiment beau, un beau contact. Ils sont revenus à la maison, puis ils étaient contents, puis tout ça. Puis les familles étaient contentes. Puis c'était un risque qu'ils avaient pris. Puis là, une fois, ils sont retournés. Puis là, c'était ça qui est arrivé. Parce que pour une niaiserie qu'on n'a jamais trouvé encore, c'était quoi la vraie raison, ils ont attaqué puis ils se sont tués. Puis tu vois, le gars ici, il avait son arme à feu. Puis il tirait dans les airs, là, les cinq étaient là, puis un avait été à radio, « Amenez-nous de l'aide, ça va mal », puis tout ça. Puis là, il tirait, comme ça, puis les Wow Danny savaient bien qu'ils étaient armés. Puis en se faisant tuer, mais il tirait dans les airs. Les cinq avaient fait comme ce pacte-là. Les autres sont pas prêts, mais nous, on est prêts. C'est sûr que ça a fait... ça a été dévastateur pour les familles, pour les enfants, pour Steve Saint, surtout. Puis on le voit ici, ça, c'est une photo là, d'époque, puis moi, on le voit pas même bien, là, c'est Steve qui est ici. Mais de suite à ça, il y en a comme les tantes de Steve Saint, puis Elizabeth Elliott, puis la femme, puis des enfants sont retournés voir cette tribu-là qui avait tué leur mari, leur papa. Puis là, le Seigneur a eu pitié, puis ça s'est converti. Ils sont venus à l'Évangile. Puis on le voit ici, Steve, avec un Wow Danny. Bon, c'est lui qui avait tué son père, je sais pas, mais la même tribu. Et puis... Ça a bien viré, hein? Ça a été bon. Mais, tu sais, des fois, quand on a une blessure, on pense que c'est arrangé, mais ça finit par ressortir. Puis lui, Steve, il avait souvent cette question-là lancinante. Il disait, mon père, y avait-tu besoin de mourir? Oui, c'est beau, là, ils sont tous convertis. Mais c'était comme une histoire d'amour qui est arrivée, puis un était jaloux, puis il a répandu des mensonges au sujet des Blancs. Et puis, ils ont tout tué de même. Un accident, un quiproquo, une mauvaise compréhension, un malentendu. Mais t'y avais-tu besoin de mourir pour une niaiserie de même? C'est le fun qu'ils soient convertis. Mais moi, pour eux autres, c'est normal, tu sais, ça se tuait comme des mouches. Mais moi, c'est mon père. J'aurais eu besoin de mon père. J'ai pas connu mon père. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il meure? Ça l'a fait souffrir longtemps. Et dans l'histoire qu'il nous raconte, c'est ça que je trouvais particulièrement touchant. C'est qu'un jour, lui était aussi pilote de brousse, puis il était en Afrique, et puis il avait eu l'occasion d'aller dans la cité de Tombouctou. Est-ce qu'il y en a qui savent dans quel pays c'est, Tombouctou? Ah. Oui, c'est ça. Au Mali. Et puis, c'est au sud du Sahara. T'as pas une verdure là-bas. Puis, c'était avant une grande ville où est-ce que les infidèles étaient interdits. Puis, t'avais la grande mosquée de Tombouctou, puis la grande bibliothèque de Tombouctou, puis on voit un peu. Là, il reste peut-être 20 000 personnes parce que tout est sec, puis il reste plus grand-chose. Mais... Steve Saint, il voulait voir Tombouctou. Et puis, il avait comme la chance d'aller, mais il n'était pas sûr de pouvoir revenir en avion comme ça, parce qu'il y avait des docteurs de l'UNICEF qui auraient peut-être pris l'avion. Mais il dit, je trente ma chance pareil, je m'en vais là-bas. Là, il arrive à Tombouctou, puis il visite, puis c'était le fun, c'était beau. Et puis, Là, il se dit, il faudrait bien que je retourne. Fait que là, il essaye de voir des gendarmes. Apparemment, ça parle le français là-bas. Fait que là, lui, il speak no French. Et puis, et là, il essaie de se faire comprendre, tu sais, les camions pour aller retourner. Il dit, camion, pas de camion, il n'y a pas de route. C'est juste du sable. Il n'y en a pas de camion. Et puis là, c'est comme le pilote, il avait dit quand il avait descendu, il fait attention là-bas. Il y a plusieurs blancs qui sont disparus. C'est dangereux. Puis si tu prends le désert, le Sahara, fais bien attention. Un camion, pas camion, là, c'est vraiment dangereux. Puis tu n'en as pas de route. Là, ça commençait à s'inquiéter. Il a dit, comment je vais faire pour me retourner? Puis il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de rien. Puis là, le monde commençait à s'attrouper autour de lui, puis il le regardait avec suspicion. Là, tout d'un coup, ça lui est venu fort. Et que j'aurais donc eu besoin de mon père. Là, je me sentais en danger, comme mon père était en danger. Mais lui, il avait une sagesse, il était proche de Dieu. Puis lui, il aurait su quoi faire, il aurait pu m'aider. Pourquoi j'ai plus mon père? J'aurais donc eu besoin de mon père. Puis là, ça le tourmentait. Fait que là, il y a pas eu d'éclair, puis tout ça. Puis il dit, je me suis surpris en train de parler à Dieu. Aide-moi, faites quoi, là? Parce que là, je suis dans chenoute. Puis là, l'idée est venue, ah, il y a peut-être un poste de communication, on va aller là-bas, puis là, puis des choses comme ça. On va envoyer un message qui fasse de quoi pour moi. Mais là-bas, ça marche pas, puis il dit, là-bas, à l'autre bout, si le gars est parti prendre son café, ça passe tout droit, le message. Ça n'a rien donné. Puis là, il s'est souvenu, il y avait une petite église évangélique, à côté de la grande mosquée. Puis là, il voit des petits kids. Il dit, église chrétienne, évangélique. Fait que là, ça parle un petit peu entre eux autres. Puis là, les adultes n'étaient pas contents. Ils regardaient ça, checkaient, ils avaient peur, tout ça. Fait qu'ils l'amènent, à quelqu'un qui s'était converti. C'était un gars de la place. Nous, qui s'appelait. Et puis là, il parlait pas la langue, puis tout ça. Mais là, il l'amène à un missionnaire qui travaillait là. Et puis là, ça commence à jaser, puis tout ça. Puis là, il était bien impressionné de tout ça, parce que nous, il racontait, ben oui, mais ma famille a essayé de m'empoisonner. Toute la ville, elle me rejette, ils me donnent pas de job, je peux même pas rester nulle part, tu sais, oui. Mais tu sais, comment t'as fait? Comment tu fais, toi, pour garder ta foi en Dieu, puis garder ta confiance dans toutes tes souffrances? Fait qu'il dit, ben c'est sûr... Tu sais, le missionnaire m'a donné une Bible, puis il m'a aussi donné des livres, tu sais, des chrétiens qui souffraient, puis ça m'encourage, ça. Je suis pas tout seul. Tu sais, celui que je préfère le plus, là, c'est l'histoire de 5 gars, là, ils ont été dans la jungle. Ben creux. Ah, moi, j'aurais eu peur d'aller là-bas. Moi, je suis un gars du désert. Dans la jungle, c'est terrible. Mais sais-tu quoi? Ils ont accepté de prendre ce risque-là pour partager l'Évangile. Ça m'encourage. Ça, c'est mon livre préféré. Le missionnaire était là, c'est lui qui traduisait. Puis là, il le regarde, Steve Saint. Il dit, justement, en passant, un de ces 5 gars-là, il portait le même nom de famille que toi. Il dit, oui, je sais. C'était mon père. Puis là, nous, il le regarde. Tu veux dire que ce toi-là, c'est vrai? Il a vraiment fait ça? Il dit, oui, il a vraiment fait ça. Il dit, ben ça m'encourage. Et puis, là, lui, ça l'a cliqué dans sa tête. Tu sais, quand il dit « si telle est la volonté de Dieu », qu'il y a un plan en tête des fois qui nous dépasse, il dit « Dieu a permis ça pour encourager des gens comme nous, là-bas, à Tombouctou, dans leur foi. Il a permis que mon papa ait mort, mais c'était pas pour rien. Il avait son plan dans tête. Tu peux-tu me faire confiance? » Puis il dit « nous, il m'a fait un cadeau. » Il m'a redonné la foi de mon père. Puis moi, j'ai fait un cadeau à nous parce que je l'ai rassuré que cette histoire-là était bien vraie. Puis les 5 gars avaient donné leur vie. Et puis, vous savez, après 1956, là, le monde évangélique au complet a été frappé par cette histoire-là, par le courage de ces gens-là. Et puis, il y a des milliers de chrétiens tièdes qui ont été en feu, enflammés pour servir le Seigneur, prendre des chances pour leur sauveur. que c'est maintenant que ça se passe, ça ne sera pas 50 ans plus tard, puis qu'ils se sont engagés eux aussi comme missionnaires pour servir le Seigneur. Donc, il avait un plan, le Seigneur, dans son amour, avait un plan, avait une intention, quand c'est dit de souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert. Et ouais, c'est ça. Peut-être que la volonté de Dieu pour Christ, c'était que lui, c'était écrit, tu sais, il fallait qu'il donne sa vie. Mais nous autres aussi, pour avoir un plan dans notre persécution, qui serve au salut de certaines personnes aussi. Et ça dit, dans Matthieu 10, ça dit trois fois, « Ne les craignez donc point. » Au verset 26, au verset 28, on lit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Il sait ce qui se passe. Il est au courant. Fais-y confiance. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Le Seigneur, il encourage notre foi à faire confiance à Dieu plus que dans la force de mon revolver. Si je suis défendu, qui je vais glorifier? C'est lui qui m'a aidé. Et si je ne suis pas défendu, est-ce que je peux croire qu'il y a un plan en tête aussi? Rapidement comme ça, j'avais lu une histoire qui m'avait frappé aussi. C'était un missionnaire auprès des FARC. Vous savez, en Colombie, là, les rebelles, le gouvernement, je ne sais plus c'est qui est rebelle, puis c'est qui est des bons, puis les méchants là-dedans, mais ça vivait dans la forêt, puis tout ça. Puis il y avait un chrétien qui avait eu à cœur, « Moi, je vais aller apporter des évangiles aux FARC. » Les autres chrétiens, ils regardaient et disaient, ah, « c'est intéressant. » Tu vas aller porter ça. Oui, oui, en montagne. J'ai comme ça, un poids sur le cœur. Il dit, j'y vais. C'était pas des gens qui allaient souvent à l'église. C'était des tueurs. Et puis, il s'était trouvé des évangiles. Et puis, il s'en va dans le jeûne. Et puis là, il rencontre une sentinelle qui l'arrête, la mitraillette, sa bédaine. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben moi, je m'en viens porter des évangiles aux FARC. Ah ouais! Sais-tu que je pourrais te tuer, moi, le SMAT? Il dit, non, tu peux pas me tuer. Il dit, moi, je peux pas mourir avant que j'aie fait mon travail pour lequel le Seigneur m'a appelé. Ça peut dire, tu sais, on peut dire, c'est simpliste, pauvre lui, tu sais, puis tout ça. Non, il y avait comme cette foi-là. Attends une minute. Non, oui, je sais, il y a des FARC et tout ça, mais au-dessus des FARC, il y a un grand Dieu. Ne les craignez donc point. Puis lui, il l'avait pris au sérieux. Moi, je ne peux pas mourir tant que je n'aurai pas fini ma job. Puis ils l'ont laissé passer. Puis il a distribué ses évangiles. Puis ils ont eu un témoignage, eux autres aussi. Puis pour lui, c'était comme impossible. Puis s'il faut que je meure, le Seigneur le sait. C'est pour ça que quand Jésus a dit, tu sais, ne sais-tu pas que je pourrais appeler 12 lésions d'ange? Je suis capable, fais-moi confiance. Puis lui, c'est ça, il l'avait pris au mot. Puis je trouvais ça beau. Si on avance un petit peu dans le restant du verset, donc ça, je conclue ici un peu c'est une exhortation à voir au-delà du revolver, au-delà de nos ressources humaines, de voir la main de Dieu qui est là-dedans et de lui faire confiance. Mais je pense à la suite du verset qui parle de la beauté de l'amour de Dieu. Puis ça me fait du bien, ça me réjouit. Ça, c'est un verset, tu sais, bon, Pierre est en train de parler, là, Christ aussi a souffert, puis c'est en passant qu'il dit ça. C'est comme accidentel ou accessoire. Christ aussi a souffert, et ça une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, juste, il a souffert pour les injustes afin de vous conduire à Dieu. Puis là, il continue son petit bonhomme de chemin en parlant de Noé, du baptême, des versets compliqués dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais en passant, là, ce petit texte-là, là, il est vraiment beau. Et puis, il y a trois points que j'aimerais soulever. C'est le « une fois pour toutes ». L'autre, c'est le deuxième point. Excusez. Lui juste, le juste, il a souffert pour des injustes. Et le troisième point, que c'était pour nous conduire à Dieu. J'aimerais ça qu'on commence par le point numéro 2. La notion, là ça a l'air compliqué un petit peu, de substitution pénale ou d'expiation substitutive. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est comme une notion là qui existe dans la théologie d'un substitut. On avait catché ça, hein? Lui juste pour les injustes. Et là, de se demander, est-ce que je suis un injuste? Certains, comme moi au départ, ça m'aurait insulté avant de devenir chrétien. Ça m'aurait insulté qu'on me traite d'injuste. Voyons donc, je suis un bon gars. Je suis pas un injuste. Et c'est comme un prérequis pour pouvoir profiter d'un substitut, c'est premièrement de se considérer injuste. Puis il y avait d'autres affaires que je comprenais pas. Moi, je trouvais pas ça juste qu'un autre souffre à ma place. Pour commencer, j'étais pas si pire. Puis en plus de ça, qu'un autre vienne à ma place, c'était pas juste non plus. Avec toute cette histoire-là. Puis même plusieurs dans la théologie, tout ça, libérale, ils disent que ça, cette notion-là, c'était au début, c'était même pas dans la Bible, puis ça a été rajouté là, par Luther, puis tu sais, au fil des temps du Moyen-Âge. Ça faisait même pas partie de l'idée. Est-ce que ce qui est pas vrai, puis je vais essayer de le démontrer, que ça fait vraiment partie du plan de Dieu et qu'on voit. Mais sur l'idée d'être injuste, j'aimerais ça juste... J'avais lu de quoi de bon là-dedans. Tu sais, Luther, en question, en parlant de lui, c'était un gars comme qui était un peu rigoureux. Il y avait une formation, c'était un moine, mais avant, il avait une formation en droit, comme un avocat. Il dit, le plus grand de tous les commandements, c'est... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton cœur. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, là, c'est les deux tops. Il dit, je pense pas que j'ai aimé mon Dieu de tout mon cœur, toute ma force, toute ma force, toute mon intelligence. Hey, je pense pas que j'ai fait ça 5 minutes de temps dans ma vie. C'est comme il n'y a pas excusé, il n'y a pas dit, ah oh, ben là, tout le monde le fait, comme ça, comme moi, je ne suis pas différent des autres. Non, il a dit, c'est vraiment ça qui est écrit, puis je suis vraiment dans la chenoute. Il dit, j'ai un problème. Puis d'aimer mon prochain, non plus, je n'ai pas fait. Comme moi-même, non, je n'ai pas fait. Puis là, il a calculé son affaire, tu sais. Il dit, mettons, tu sais, si moi j'avais une dette envers Dieu à chaque péché que je fais, à chaque pensée que je fais, à chaque parole ou les choses que je devrais faire que je fais pas, j'avais une dette, mettons 5 000 $. 5 000 $, c'est une dette, quand même, tu moi, c'est pas facile, 5 000 $, peut-être sur ma carte de crédit, il reste la place. Oui, OK, 5 000 $, je me débrouille. Mettons, c'est 50 000 $. Ouh! En 3 jours. À repayer, là, on est bien, je regarde mes amis qui ont peut-être plus en moyen que moi, tu sais. Là, on est bien, je vais peut-être me débrouiller, 3 jours, OK. Mettons 50 milliards. Ce sont sa planète. Il y a peut-être Bill Gates, Bill. Maryse, elle le connaît bien, je vais peut-être... Ben, j'ai pas la relation avec Bill, puis des princes saoudiens, peut-être, qui pourraient m'aider, mais là, c'est un milliard. Mais c'est un peu, il dit, ce genre de dette-là envers Dieu, une dette morale, qui nous pèse dessus, une dette morale infinie. Puis là, c'est cette précision-là que je trouvais intéressante, c'est la distinction entre une dette, parce que, comme ce que je vois dans certaines religions, il y a l'idée de la balance. C'est une dette financière. Si je te dois de l'argent puis je te repaye, c'est bon. Puis tu peux repayer des choses. Tu as des débits crédits. Mais non, une dette morale, c'est pas la même chose. Il dit, supposons qu'il y a un petit gars qui s'en va acheter une crème glacée. Tu sais, la crémière, chocolat favori, Dairy Queen, ce que vous voudrez. Là. Il s'en va acheter sa crème glacée puis sa mère, elle donne 3 piastres. 3 piastres, tu vas en avoir assez. Fait qu'il se prend une petite crème glacée, puis là, ça coûte 5 piastres. Le petit gars, il dit, mais là, j'ai juste 3 piastres que ma maman m'a donné. Je sais pas quoi. Là, les larmes, ils viennent, puis là, tu es en arrière. Tu dis, oh, 2 piastres, t'as mis là. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes le 2 piastres au ticket, puis tu me donneras une guichette. Non. Mais, je veux dire, tu lui donnes 2 piastres, puis, c'est pas ça mon point, là, je m'excuse. Là, c'était une dette financière. Puis parce que tu sors ton 2 piastres, la madame, elle n'a pas le choix de l'accepter. Hein? C'est de l'argent légal. Hein? C'est ça que c'est écrit, c'est bien legal tender, à cour légale. Écoute, tu es obligé de l'accepter, c'est de l'argent. Même si ça ne vient pas du petit gars, prends ça, puis il y a sa crème glacée. Ça va? Mais supposons que le petit gars, il prend son cornet, puis il part à courir. Hein? La madame, arrêtez-le, là, putain! Qui c'est qui rentrait prendre une crème glacée? La police. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Prends le petit gars. Là, maintenant, moi je suis en ligne encore derrière l'affaire. Oh, 5 piastres. Là, la madame, avant, elle était obligée de l'accepter. Là, est-ce qu'elle est obligée de l'accepter? Elle n'est pas obligée de l'accepter. Parce que c'est plus qu'une dette financière, là, c'est une dette morale. Le petit gars, c'est un voleur. Il a volé. L'autre, le premier, c'était une dette financière. Je n'avais pas 2 piastres. Là, c'est une dette morale. Elle n'est pas obligée de l'accepter. Elle pourrait, si elle veut, l'accepter. Est-ce qu'elle peut le laisser passer? Oh, tu es un voleur, laisse-le aller. C'est correct, j'y donne cette crème glacée. Est-ce qu'elle peut faire ça en toute justice? Ben non. Ben, si elle fait ça, le petit gars va revenir tout le temps. Les autres petits gars vont tous faire ça. Il faut qu'elle intervienne. Elle ne peut pas le laisser aller. Puis elle n'est pas obligée d'accepter 5 piastres. Mais si elle veut, elle peut l'accepter. Mais il faut qu'elle accepte quelque chose, elle ne peut pas accepter rien. Et face à Dieu, c'est comme ça aussi une dette morale. On devait l'adorer, on devait l'aimer. C'est juste logique. Puis on ne l'a pas fait. Puis cette rébellion-là, c'est une rébellion de voleur. Parce qu'on a volé la gloire qui appartenait à Dieu. Il y a une dette morale. Ça ne se repaye pas avec un 5 piastres, un 2 piastres. C'est un problème. C'est pour ça qu'il dit... Pour des injustes, c'est juste de réaliser ça, puis que le Seigneur fasse la grâce de convaincre de péché. C'est tellement un cadeau qu'il nous convainque de péché. Hey, c'est vrai, je suis mal pris. Jamais je pourrais me présenter devant Dieu avec ma propre justice. Et sur cette... notion-là de substitution, j'aimerais ça qu'on regarde dans Ésaïe 53. J'ai mis en rouge là, les passages qui parlent d'un substitut. Et juste de dire, tu sais, il y en a qui disent, écoute, toutes les religions, c'était pareil, tu sais, il y a juste un Dieu unique. Tu sais, comme dans l'islam, ça dit ça, Allah est le Dieu unique. Et puis, suis ses commandements, puis tout va bien aller. Puis la religion, toutes les religions disent la même chose. Non. Ici, il y a la notion de substitut. Puis ça ne dit pas toutes la même chose. Et puis on va le voir, même depuis Adam et Ève, quand ils ont été vêtus d'une peau d'animaux, ben c'était un substitut qui était mort à la place pour couvrir leur nudité. Caïn et Abel ont offert un sacrifice, un substitut mourait. Et tout le long de l'histoire, puis là on va voir le grand substitut dans Ésaïe 53, 2. Devant le Seigneur a grandi comme une petite plante. Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait. Il y avait un plan. Habitué à la douleur, il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos, pas ses maladies, mais nos maladies, en remplacement, en substitut. Nos maladies qu'il supportait, c'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse, mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, le substitut. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus et chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui, ça c'est 700 ans avant Jésus, par le prophète Ésaïe, qui parlait d'une substitution. Comme tous les sacrifices que vous avez présentés, il va arriver que le serviteur de l'Éternel va être un substitut pour vous. Fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Et c'était le concept, là c'est une petite parenthèse ici dans Lévitique 16, 21, que ça dit cette notion-là. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Là, c'était un bouc. Et c'était un substitut. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Fait que c'était un autre, les iniquités d'un autre qui étaient confessées sur sa tête. Et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. C'est sûr qu'il fallait qu'ils admettent qu'ils étaient injustes, qu'il y avait eu des transgressions, qu'il y avait eu des péchés pour faire, demander un substitut. Il les mettra sur la tête du bouc, le substitut, à la place. Puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. L'agneau mourait, tous les agneaux qui étaient sacrifiés, à la place du croyant. Il était un porteur de péché. Puis on va le voir dans le texte encore d'Ésaïe. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence comme un agneau qu'on sacrifiait. Mais là, c'était le vrai, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qu'on mène à l'abattoir comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe la laine. Il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple, lui comme substitut. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Il n'avait jamais trompé personne. Une des exigences pour un substitut, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit défectueux, comme la personne est défectueuse pour qui on voulait enlever des péchés. Il ne faut pas que lui soi-même soit pécheur. C'est pour ça que c'est dit, il n'a rien fait de mal. Il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Il a établi celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Hein, c'est clair, ça. À la place des autres. Son serviteur aura des enfants. Mais pourtant, il est enterré avant. Non, ça dit, il aura des enfants. Il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet, son plan d'en tête qu'il avait. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière et il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, hein, lui juste pour les injustes, le vrai juste rendra juste. Ça, c'est beau, rendra juste. On est des injustes, mais on peut être rendu juste. Rendra juste. C'est ça qui est la beauté de l'Évangile. Quand on reçoit ce cadeau-là, d'être rendu juste, ma dette de 50 milliards, une dette morale infinie, est effacée. Je suis rendu juste. Rendra juste un grand nombre de gens, ceux qui veulent, ceux qui reçoivent, ceux qui acceptent ce cadeau-là. Est-ce qu'on paye quelque chose? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils sont forcés? Non. Il l'a fait volontairement. Un substitut, il faut qu'il soit sans péché. Il faut qu'il fasse volontairement. Et c'est ça que Jésus a fait. un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés, pas des siens, des leurs. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera la richesse des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement, volontairement, de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté un porteur de péchés. Il a porté les péchés de beaucoup de gens. Il est intervenu pour les coupables. Je disais, le substitut doit être sans péché, doit le faire volontairement. Tu sais, j'avais une amie, j'habitais à Montréal, et puis elle se promenait avec son bébé comme ça, elle traversait la rue, puis arrive un gars en fou, puis tout ça, puis elle a poussé le bébé, le carrosse, puis elle s'est faite frapper. Elle a survécu, mais elle avait risqué sa vie pour sauver son enfant. On dit pas, ben t'es bien niaiseuse, c'était à lui à mourir, c'est lui qui était là. Non, on admire ça quand quelqu'un le fait librement. Et que Jésus le fasse librement, c'est juste beau et bien. Donc, sans péché, librement, et d'une valeur égale ou supérieure. C'est le substitut, il faut qu'il... Ça ne peut pas être un agneau. Un agneau, ça n'a pas la même valeur. Il fallait que ce soit un homme ou supérieur, le Fils de Dieu, qui sans péché puisse payer pour les péchés des coupables. Il est intervenu pour les coupables. J'accélère un petit peu. Une fois pour toutes, c'était l'autre point, le numéro un, juste de dire que c'est comme c'est fait, puis ça dit c'est certain, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est certain. Moi, au début, j'avais beaucoup de doutes. Mais je disais ça, ces paroles-là, qu'il est mort une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, juste, il a souffert pour les injustes. Mais je dis, ça ressemble à ça. On dirait que ça dit ça. Ça m'a rassuré, ça m'a donné une conviction. Pour nous conduire à Dieu, on ne pourrait jamais rencontrer Dieu. Puis il y en a qui disent, moi, là, quand je vais le rencontrer, j'en ai beaucoup à dire. Tu vois, ouais, je vais y raconter, mais je vais y expliquer bien des affaires, parce que moi, là, non. Même, tu sais, tu penses aller au ciel, mais la personne là qui va vouloir le plus sortir de là, ça va être toi. Comme moi, hier, j'étais dans un mariage. Tout le monde était bien checké, parfumé, tout le kit. Si moi, j'étais rentré, comme le matin j'étais, tu sais, que je pas lavé, tu sais, travaillé dans une ferme, je sentais mal, tout souilleux, en tout cas, tout sale. Puis là, j'arrive au mariage. Je me sentais pas à ma place. Les gens vont me regarder. La mariée va me regarder. Les gens vont me sentir. Moi, je voudrais pas être là. Mais c'est la même chose. Si on se présente devant Dieu avec notre propre justice, on voudra même pas être là au ciel. C'est nous qui voudrons pas être là. Et puis, ça le dit à plusieurs reprises. Je saute un petit peu. On entrera, ça c'était dans Ésaïe encore. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Oh, s'il vous plaît, je peux-tu rentrer dans un trou? Non, je veux pas être devant lui. Non, là, la honte, le malaise d'être dans sa présence. Et on pourrait aller au ciel? Et puis c'est repris ça dans l'Apocalypse, repris quatre fois dans la Bible, cette notion-là de que le pécheur trouve insupportable la présence de Dieu. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc, on termine ici avec une invitation de recevoir notre substitut. Ce matin même. Si tu en as besoin, si tu veux être sûr d'aller au ciel, cette parole-là qui est certaine une fois pour toutes, je t'invite juste à recevoir ce substitut-là, de lui dire, « Hey, je le veux, je suis pécheur. » On va prier. Seigneur, merci pour ces textes où est-ce que tu nous encourages à te faire confiance, même quand on souffre, et pour la grande bonté que tu as eue envers nous, pour ton amour qui a conquis nos cœurs. Et si c'est pas fait, Seigneur, dis-lui dans ton cœur, dis-lui, je veux te recevoir, je veux me tourner vers toi, je veux accepter ton cadeau d'être mort à ma place pour mes péchés, mes iniquités, de les avoir portés, toi le seul qui était parfait. le juste pour moi injuste. Merci. Amen.